place maintenant aux questions-réponses. Vous connaissez la formule, éteignez vos portables, vous les mettez sous silencieux. On prend deux questions à Kinshasa avant d'aller à Goma. Deux questions à Kinshasa, permettez que je commence par ma gauche cette fois-ci. Le micro, s'il vous plaît. Oui.
Merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte de Congo et l'élan en ligne. Ma question est relative à l'information qu'on a reçue à Beni. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux qu'il y a eu évasion de plus de 930 prisonniers sur le 966 régulièrement enregistrés dans la prison de Beni. Lors de cette conférence, on n'a même pas entendu un seul mot là-dessus. Et si c'est vrai, Beni fait partie des zones rouges de l'Est. Et c'est une zone de haute surveillance. Je suppose qu'il y a la MONUSCO là-bas, les FRDC, la PNC. J'ai été plusieurs fois dans ces territoires, je sais ce que je suis en train de dire. Et dans le 930 évadés, ils ne doivent pas se trouver dans les territoires des Beni. Certainement, ils doivent rentrer dans les localités d'opération, c'est-à-dire Iringeti, Mamoundioma ou encore à Kiringi. Quelles sont les dispositions que la MONUSCO prend maintenant là pour pouvoir sécuriser la ville encore une fois? Merci.
Ok, merci. Nous sommes effectivement informés de l'évasion des prisonniers de la prison centrale Kangwai de Beni, et c'était le dimanche 11 juin 2017. Ça, c'est une confirmation. Cette attaque de la prison a permis à des centaines de prisonniers, ça je le confirme, de s'évader de la prison. Et sur les 966 prisonniers que comptait cette prison, il n'en reste qu'environ une trentaine. Nous ne pouvons pas vous confirmer les auteurs de l'attaque, qui auraient fait au moins 12 victimes. Les casques bleus de la MONUSCO et aussi la police MONUSCO ont conduit immédiatement des patrouilles dans les environs dans l'objectif de sécuriser l'environnement et de sécuriser les populations aux alentours. Ça, c'est pour répondre à notre mandat. Aussi, je voudrais rappeler que, en fait, la responsabilité première de la sécurité, c'est le gouvernement de la RDC. Et nous, la MONUSCO, les Nations Unies, nous venons en appui. Et c'est ce que nous faisons pour essayer de ramener le calme, la sécurité et la sécurité dans la région. Voici ce que je peux vous dire sur cette question. La deuxième question, permettez que je prenne à ma droite. Il y a un monsieur qui soulève sa main. Voilà, exactement. Allez.
C'est David Opape du journal La Prospérité. Ma question est la suivante. L'inhumation d'Étienne Tshisekedi est prévue à la concession familiale de la CELI. Par ailleurs, le rapatriement est prévu incessamment. Que prévoit la MONUSCO par rapport et sur le plan sécuritaire? Merci.
Il faut noter que le choix du moment du rapatriement du corps de M. Étienne Tshisekedi, ce n'est pas à la MONUSCO d'en décider. Maintenant, si la décision, un consensus est trouvé, que ce soit entre la famille, le parti politique et le gouvernement, pour trouver une date pour le rapatriement du corps de M. Étienne Tshisekedi, ça nous le notons. Cependant, comme nous le faisons d'habitude, si pour des raisons sécuritaires, on nous demandait un soutien quelconque dans ce cadre-là, nous sommes prêts à pouvoir répondre dans la mesure de nos possibilités. Nous allons à Goma pour prendre deux questions. On va revenir ici. Je vois beaucoup de doigts, mais on va revenir. Goma, deux questions, s'il vous plaît.
Merci, Théophane. Je crois qu'on va commencer par la droite. Je vais donner la parole comme il est le plus proche. Et puis, on va à la gauche après.
Oui. C'est Benjamin Mouloba pour la radio Blessing FM. Je voulais poser ma question au porte-parole de la MONUSCO. Quels sont les résultats qui poussent à la section de protection de l'enfant de la MONUSCO d'être satisfait de la collaboration entre la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO et la FECOFA dans la lutte contre l'utilisation des enfants dans les groupes armés.
Vous savez très bien que ici, à cette même conférence, nous avons officiellement lancé la collaboration que nous avions avec la FECOFA dans le domaine de l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Donc, en fait, c'est une continuation de notre opération qui a été lancée depuis, et nous essayons de prolonger nos efforts, de mener des activités, de faire en sorte que ce que nous avons pris ensemble comme engagement ici avec la FECOFA, que nous puissions poser des actes concrets de manière à sensibiliser les groupes armés à ne plus enrôler les enfants. Parce que la place des enfants, c'est dans les écoles, ce n'est pas dans les groupes armés. Donc nous sommes satisfaits de cette collaboration. C'est ce qui a motivé cette activité-là que nous avons donnée dans le verbatim, c'est-à-dire un engagement solennel avec les léopards, de façon à sensibiliser davantage ces groupes armés, à sensibiliser davantage les populations, pour que ensemble nous puissions unir nos efforts et prévenir l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Donc nous sommes satisfaits et c'est ça notre motivation, et nous allons continuer à mener des activités, à collaborer intensivement avec la FECOFA pour engranger plus de victoires. Une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Papi Okita,
le micro, on va lui passer la parole, après on reviendra.
Papi Okita, du journal Écho d'Opinion. La question, je la pose à Madame de ACA. Madame, je ne sais pas si vous venez souvent à Goma, mais les réfugiés, la plupart ne sont plus, je ne sais pas si vous avez des camps, ou vous appelez ça camp de réfugiés, ou les maisons de protection, mais ils sont plus dans la cité, ils vivent avec la population, ils ont même plein de dettes, ils n'ont même pas quoi payer la maison, ils n'ont pas de carte, mais il y a quand même des fonds qui sont alloués pour ça. Est-ce qu'il y a des stratégies pour cette année, comment bien mettre ces réfugiés dans de bonnes conditions, madame? Merci.
Oui, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Allez-y.
Merci beaucoup pour la question. Oui, je suis déjà venue à plusieurs reprises visiter Goma. Et les réfugiés sont plus ou moins intégrés dans la communauté locale parce qu'ils sont là depuis des décennies, depuis 1994, je crois. Nous avons commencé à demander les réfugiés qui voudraient rentrer chez eux, et nous avons beaucoup de candidats qui ont demandé assistance au SDR et nos partenaires, et nous sommes en train de faire ça. Je ne peux pas répondre aux questions spécifiques pour les bêtes et tout ça, parce que ce n'est pas le domaine dont on s'occupe. Merci.
Ok, nous prenons une question. Je vais prendre une question à ma droite ici. Oui, le monsieur qui est juste devant vous. Oui.
Merci. Albert Romba, Numérica TV. Monsieur Pina, nous avons entre nos murs le secrétaire général adjoint, monsieur Jean-Pierre Lacroix, qui est venu pour une visite à RDC. Pourrons-nous croire que l'objet de cette visite, c'est pour poursuivre et évaluer l'évolution du processus des accords de Saint-Sylvestre qu'il est venu, ou pour quel autre motif?
Votre question est précise, je vais vous donner une réponse précise. En fait, depuis sa nomination le 14 février 2017, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, n'était pas venu à RDC, raison pour laquelle il a décidé de venir se familiariser avec son environnement de travail. Il est arrivé précisément le lundi 12 juin et c'est une visite de 5 jours. Son programme prévoit notamment une série de rencontres avec les autorités du pays ainsi que le personnel de la mission. Il aura des séances de travail. Depuis son arrivée, je peux déjà vous le dire, il a déjà rencontré plusieurs personnalités, notamment il a rencontré le ministre des Affaires étrangères, il a rencontré le Premier ministre, il a rencontré la société civile, il a rencontré des partis politiques, il va probablement rencontrer le chef de l'État. Donc ce matin, il est même parti en province, il va aller successivement à Goma, à Beni, à Kananga. Et donc sa visite n'a pas de lien particulier avec l'objet dont vous mentionnez, c'est-à-dire l'accord du 31 décembre. Peut-être que les discussions peuvent venir sur la question, mais ce n'est pas la première mission de sa visite. Voilà, deuxième question. On va changer. On va revenir vers vous, madame. Vous aurez la parole. Oui.
Merci. C'est Claudie Moukoko pour les comptes des désastres télévision. Ma question est celle ici. Donc, je crois que vous êtes témoin de ce qui vient de passer, de se passer, bien sûr, que oui, dans la ville province de Kinshasa, concernant l'évasion consécutive. Plus encore, on venait de connaître l'évasion de la prison Makala, mais également celle de la prison de Matete. Alors, vous, en tant qu'une institution, appuie à la protection, mais également à la sécurité de la population. Alors, s'il faut pallier à cet état des choses concernant l'évasion de prison des Makala, mais également des Matete, que direz-vous?
Je ne voudrais pas me répéter, mais je pense avoir déjà donné une partie de votre réponse, une partie de la réponse à votre question. Vous savez, quand il y a eu l'évasion à la prison de Makala, nous avons dit que nous avons été sur les lieux, la police MONUSCO est allée sur les lieux pour sécuriser la population carcérale qui était sur place et faire en sorte que la sécurité des personnes, des civils, soit prise en compte. C'est la même chose pour Matete. Nous étions aussi présents, la police MONUSCO est allée sur place, et parce que nous devons travailler avec les autorités en place pour faire en sorte que tout ce que nous devons entreprendre pour la sécurité des populations soit bien mené. C'est la même chose quand il s'est agi de Beni, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Et à Beni, nous avons aussi et la force et les casques bleus et la police MONUSCO, nous sommes intervenus sur place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de menace sur la population. C'est ce que nous faisons. Mais encore une fois, la responsabilité première relève du gouvernement, des autorités, et nous apportons un soutien, nous apportons notre appui. Permettez qu'on reparte à Goma pour prendre deux questions et on revient à Kinshasa. Deux questions à Goma, s'il vous plaît.
Charlie. Oui, je suis Charlie Kassereka pour la Voix de l'Amérique. Et parce que vous parlez des soutiens, et j'aimerais savoir, parce que ma question c'est une question militaire, j'aimerais savoir concrètement quel appui la MONUSCO a apporté aux opérations que les FARDC mènent dans les parcs de Virunga pour les ratissages ratissage de tous les groupes armés qui y étaient. Quel a été votre appui? Parce que j'étais là, j'ai vu des militaires qui manquaient même de l'eau et au fin fond du parc, et que vous avez ces moyens, des hélicoptères, pour peut-être apporter ces eaux et cette eau-là à boire dans les fins fonds du parc. Quel a été votre appui? Parce que vous parlez de soutien toujours.
Oui, je laisse la parole au capitaine à Goma, mais ce n'est pas seulement au niveau du parc que nous intervenons. Il y a d'autres opérations qui sont en cours, des opérations au niveau du lac Édouard et bien d'autres. Je crois que le capitaine est bien placé pour donner des éléments de réponse. Capitaine, à vous.
Ok, merci. Alors, la réponse à cette question s'articule en deux volets. Donc, le premier volet, il traite des opérations qui ont été menées à partir du 31 mai 2017, conjointement avec les FARDC et les CCN, l'Institut de conservation de la nature. Donc, on a mené des opérations terrestres et aériennes, et même il y avait la participation de quelques éléments de la marine congolaise. Donc, ces opérations ont été menées pour éradiquer la menace des groupes Maï-Maï qui surgissent surtout dans la zone sud du lac Kivu. Donc, de lac Édouard, plutôt. Pardon. Donc, ce groupe armé a préparé de nombreuses activités illicites telles que le trafic d'armes, la contrebande, le commerce de bois et de charbon et enlèvement et extorsion des populations civiles. Donc, dans le but de contribuer conjointement avec les FRDC à éradiquer ce menace, les opérations ont permis de chasser les éléments des Maï-Maï des zones qu'ils occupent. Surtout, donc, je peux citer Kamandi, Vichombi, Chanika, Chondo et Kamahoro. Donc, cette opération a permis, évidemment, à restreindre la liberté de mouvement et de l'influence de ce groupe armé. Donc, on a projeté un dispositif sécuritaire pour contrer un éventuel retour de ces éléments Maï-Maï. On a placé des éléments des FRDC dans ce sens. Alors, le deuxième volet, vous parlez pour la coopération entre FRDC et la MONUSCO. La coopération entre les FRDC et la MONUSCO est réglementée par un arrangement technique entre les deux entités. Cet arrangement technique définit un cadre général bien défini, bien réglementé, qui s'articule sur deux objectifs, qui sont la protection des populations civiles par la neutralisation des groupes armés, et la deuxième des choses, c'est la stabilisation par la consolidation de l'autorité de l'État. Donc, pour ce faire, on travaille conjointement sur quatre domaines de coopération. La MONUSCO peut offrir un support logistique, un soutien de combat, un soutien renseignement et un support de commande, le CIDE. Donc, cette coopération, je peux dire qu'elle apporte une contribution primordiale pour préparer le terrain aux activités de stabilisation ou de conciliation. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans les deux volets. Okay.
Merci, Capitaine. On reste à Goma pour la deuxième question.
On a un collègue qui vient de Walikale et on va lui laisser la parole. C'est pas souvent qu'on a des collègues qui viennent de l'intérieur.
Merci pour la parole. C'est Justin Kissou Bungeni de la radio communautaire de Walikale. Et bien évidemment, dans le cadre des projets en impact rapide, plus précisément dans les îlots de stabilité, à Walikale, la MONUSCO avait financé un projet de la construction de la maison de la justice, mais par surprise, ça fait plus de 6 mois que ce projet n'avance pas. Cela dit, et quand bien même, cette maison est encore inachevée. Et on ne sait pas pourquoi. Si c'est Florence, elle peut nous aider à répondre à cette question. Parce qu'elle est l'ancienne quand même de la MONUSCO.
Noté, et vous aurez la réponse la semaine prochaine. Je vais me rapprocher des collègues de l'unité de soutien à la stabilisation qui mettent en œuvre ce projet. Donc, réponse mercredi prochain.
On revient à Kinshasa. Bon, je sais que vous avez levé votre main avec insistance. Donnez à madame, s'il vous plaît.
Laetitia Massela pour le compte de la RTNC de développement. Ma Florence, j'ai une préoccupation. Quelles précautions les humanitaires prennent-ils pour œuvrer en toute sécurité dans les trois provinces du Kasaï? C'est là au moment où les enquêteurs onusiens y sont déjà au travail et en pleine discordance avec le gouvernement de la République démocratique du Congo.
S'il vous plaît.
Merci.
Un peu de silence pour qu'on puisse continuer là.
Okay.
Non, ça va, on a compris votre question, je crois.
Tu peux juste reformuler le début de la question.
Quelles précautions les humanitaires prennent-ils pour œuvrer en toute sécurité dans les trois provinces du Kasaï, là où, au moment, les enquêteurs onusiens y sont déjà au travail et en pleine discordance avec le gouvernement de la République démocratique du Congo? Merci.
Merci, Laetitia. avant de prendre des précautions, il faut que nous poursuivions notre plaidoyer, vous le savez, pour avoir accès aux personnes qui sont en besoin et dans un besoin d'assistance au Kassai. On l'est dans la grande province du Kassai. On le répète souvent, le coordonnateur humanitaire, le docteur Diallo, était la semaine dernière en mission dans cette région, et c'est un plaidoyer qu'il a mené auprès des autorités provinciales et des forces de sécurité congolaises afin de favoriser l'accès de tous les humanitaires aux populations qui sont dans le besoin. Donc pour nous, c'est la priorité, c'est d'avoir accès à ces personnes pour pouvoir apporter une fois de plus un réconfort à toutes les personnes affectées par la crise actuellement.
Oui, Madame Anne, compte peut-être quelques éléments d'information ou compléments d'information par rapport à cette question.
Oui, merci beaucoup pour la question, merci aussi pour la réponse. Nous aussi, le ACR, nous sommes au Kassai. Nous avons demandé permission ou accès pour les agents d'ACR. Et juste maintenant, nous avons un ONG national, ADESSE, qui est en place et ils sont en train de donner les repas chauds et d'autres formes d'assistance humanitaire. Notre représentant assistant de la protection, il est aussi en mission au Kassai pour évaluer et faire un assessment de ce qu'on peut faire dans le mid-term et le long-term pour amener assistance aux personnes déplacées. Je voudrais aussi ajouter que nous avons actuellement presque 30 000 réfugiés congolais qui sont traversés la frontière et qui sont en Angola, en Lunda Norte, et ils cherchent refuge parce qu'ils fuient le conflit au Kassai. Merci.
Merci. On prend la deuxième question ici et on prendra une dernière question à Goma. Une question ici. Quelqu'un qui n'a pas parlé, mais apparemment le monsieur ici devant moi, ici. Oui.
Nikos Mouzani, africeco.ch. J'ai deux questions, dont l'une...
Non, une seule question. On a une question à Goma. Une seule, s'il vous plaît.
Alors, je m'adresse à vous, monsieur Théophane. J'aimerais mieux vous rappeler une chose, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais plutôt par ceux qui regardent le mal sans faire quelque chose.
Mais posez votre
question. Et je ne voudrais pas que ce soit la MONUSCO pour le cas de la RDC. Est-ce que vous pouvez rassurer les Congolais qui sont les 100 voix pour lesquelles les chevaliers de la plume et du micro sont ici, si réellement l'accord de Saint-Sylvestre et la résolution 23 à 48 vous donnent vraiment pouvoir de tout faire pour que cet accord puisse ramener la paix dans ce pays. La première résolution n'a pas abouti à des solutions. Est-ce que vous pouvez affirmer, M. Théophane, la main sur le cœur, que les Congolais peuvent être tranquilles?
Merci pour votre question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous croyons fermement à l'accord du 31 décembre. Raison pour laquelle le représentant spécial du secrétaire général ne cesse de développer ses bons offices. Vous vous rappelez, il y a une semaine, plus précisément le mercredi 7 juin, il a rencontré successivement les représentants de la majorité de l'opposition pour discuter autour de toutes ces questions, en prévision justement des élections qui devraient nous conduire à un environnement propice de stabilité. De la même manière, il a continué récemment à rencontrer la majorité, l'opposition, et il va rencontrer, dès qu'il reviendra de sa mission à Goma, parce qu'il est parti ce matin à Goma et pour une visite à Beni à Kananga, et dès qu'il va revenir, il va également rencontrer les associations de jeunesse. Tout ça parce que nous croyons que les bons offices peuvent nous aider à résoudre la question pendante, les dissensions actuelles. Donc, nous y croyons. La réponse est oui, nous y croyons. Nous prenons une dernière question à Goma.
Merci pour l'expression d'Arel Maurice, c'est Track Magazine. Et à notre invité, j'ai une petite question. Peut-on avoir la date à laquelle les réfugiés burundais seront rapatriés, car la situation du camp de Lucinda est chaotique? Je parle là des cas de répétition des grenades. Merci.
On ne peut pas donner une date précise pour le rapatriement des réfugiés burundais parce que la situation au Burundi actuelle, nous avons toujours les nouveaux arrivants de Burundi, mais ceux qui s'en demandent l'assistance pour le rapatriement, nous aurons facilité leur rapatriement chez eux. Pour le camp de Lucinda, le gouvernement nous a alloué un autre site qui est en train d'être développé et nous travaillons très, très vite et très dur pour arranger la situation pour accueillir les réfugiés qui continuent à venir parce que les sites, les centres de transit, ils sont pleins. Il y a les mamans et les enfants qui dorment à l'extérieur dans la nature. Et avec le gouvernement, les autorités locales et nos partenaires, nous sommes en train de ranger les choses dans un nouveau site. Merci.
Merci pour votre attention. À la semaine prochaine, c'est la fin de cette conférence de presse.